Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Que va changer la réforme de la formation professionnelle? Bonjour Mathilde Lemoine, vous êtes économiste et professeur à Sciences Po. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette réforme?
Cette réforme est une révolution puisque d'abord vous allez être crédité d'un nombre d'euros. Vous allez pouvoir en tant que salarié choisir directement les formations que vous souhaitez suivre dans une application qui va être dédiée. Le financement va être centralisé. Il va y avoir un nouvel organisme qui va s'appeler France Compétences et qui va regrouper l'État, les régions et les partenaires sociaux. Et donc on va avoir une logique qui va être complètement différente. L'autre élément important, c'est que si vous êtes à temps partiel, vous aurez les mêmes droits qu'un salarié à temps plein et il va y avoir des mesures spécifiques pour les salariés peu qualifiés puisqu'ils sont dotés, ils seront dotés d'un nombre d'euros supérieur.
On parle effectivement de 800 euros contre 500 euros par an pour les salariés les moins formés. Il y a dans la presse de ce matin un consensus entre Le Figaro et l'Humanité pour être en désaccord avec cette réforme. Pourquoi ?
Alors cette réforme est une révolution puisque l'objectif c'est de sortir de la logique de baisse de charges, de baisse de coût du travail, de compétitivité par le bas, en formant mieux les salariés, en faisant en sorte qu'ils aient des compétences plus adaptées à l'évolution de la demande internationale et de la demande de services et donc de pouvoir après augmenter la productivité, les salaires et donc avoir une logique vraiment de dynamique par le haut et de cesser ce cercle vicieux par le bas. Alors, pourquoi personne n'approuve cette réforme ? Parce que, en fait, les chefs d'entreprise ont intérêt à former les salariés au poste de travail. C'est-à-dire, vous, par exemple, on a intérêt à vous former, à être meilleur en tant que journaliste, mais si vous souhaitez faire une reconversion professionnelle, dans le vin, par exemple, votre employeur...
Ah, il va y avoir du boulot.
Voilà, votre employeur va dire, mais non, c'est pas à moi de financer ce type de réforme, alors que la...
J'en sais rien, je peux lui poser la...
Voilà,
question.
On peut lui demander, alors que la collectivité, dans son ensemble, va avoir intérêt éventuellement à ce que vous fassiez cette réforme parce que vous allez être plus mobile et si par malheur il y avait des réductions de postes dans votre secteur, vous seriez prêt à changer de secteur. Donc on voit bien que la logique du chef d'entreprise n'est pas forcément cohérente avec la logique de l'ensemble de la collectivité. Et donc ça c'est du point de vue du chef d'entreprise et du point de vue des syndicats. En fait, les syndicats, sauf la CFDT, mis à part la CFDT, considèrent que la formation des salariés est une forme d'individualisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'on met en avant l'individu et plus le système collectif et qu'il faut faire attention, puisque justement, ce qui est important, c'est de faire en sorte que la force de travail puisse négocier justement pour éviter une paupérisation via une trop forte flexibilité.
Bon, mais lorsque vous parlez de révolution, alors ça c'est votre point de vue et j'ai l'impression que ce mot est positif dans votre bouche, il est négatif dans la bouche d'un certain nombre de commentateurs aujourd'hui parce que s'il y a révolution, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Les perdants sont les syndicats, aussi bien d'ailleurs les syndicats patronaux que les syndicats tout court, puisque jusqu'à aujourd'hui, ils géraient le pactole, c'est un chiffre énorme de la formation professionnelle.
Alors je dis révolution et effectivement c'est très positif parce que j'avais présidé un rapport pour le think tank Terra Nova et un certain nombre de nos préconisations ont été reprises et notamment de mettre le salarié au cœur du système. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très positif et encore une fois ça peut permettre de sortir de cette logique de paupérisation de la force de travail via des emplois à temps partiel et une baisse du coût du travail. Mais en ce qui concerne la reprise en main par l'État.
Parce que c'est ça en fait qui fait pousser de hauts cris.
Exactement, c'est vraiment ce sujet. Je crois que c'est indispensable parce que encore une fois, le gain privé d'une formation n'est pas forcément le même que le gain collectif. Je m'explique très rapidement. C'est-à-dire, encore une fois, un employeur peut avoir un intérêt et retirer un gain d'une formation spécifique à votre poste de travail et le collectif a besoin plein de salariés qui sont mobiles, qui peuvent choisir justement de quitter leur emploi avant que l'entreprise soit en restructuration. Et pour ça, ce qui est très important, c'est que il y a une possibilité d'accompagnement pour le salarié peu qualifié, qui ne soit pas seul face à leur application. Et il y aura un financement qui est prévu pour les conseillers en évolution professionnelle. Donc si vous, par exemple, vous n'avez pas d'idée de vers quoi évoluer ou de quelles compétences générales vous avez besoin, vous pourrez vous tourner vers ce conseiller en évolution professionnelle et lui aussi, il sera financé par des appels d'offres tripartites, État, région, partenaires sociaux. Donc on voit bien que ce qui dérange le système, c'est que l'État reprend la main. En tout cas, c'est mon interprétation.
Oui, parce que vous êtes très poli, donc je vais l'être un peu moins que vous. La formation professionnelle, c'était 32 milliards d'euros, donc c'est une somme gigantesque. Et les mauvaises langues disaient qu'une partie non négligeable de cette somme allait dans des sphères opaques, probablement en partie le financement de syndicats. Et je répète, aussi bien syndicats patronaux que syndicats de salariés. Et c'est là aussi pourquoi ces organisations aujourd'hui sont profondément mécontentes, Mathilde Moine.
Alors, il y avait un tel nombre d'acteurs que de fait, il y a une déperdition en ligne. Plus il y a d'acteurs, plus c'est difficile justement de pouvoir répondre à une évolution de la demande. Et on cite souvent des acteurs spécifiques qui recevaient une partie du financement, que sont les OPCA. Alors c'est un peu technique très tôt le matin, mais ça fait partie aussi de la remise en cause proposée par le gouvernement, c'est-à-dire de réduire ce nombre d'acteurs et de faire qu'il y ait un lien direct entre le salarié et sa formation et qu'il puisse justement décider de payer lui-même sa formation avec son compte personnel de formation. Et je crois que c'est au-delà de rentrer dans le système de tuyaux et de financement, c'est la réduction du nombre d'acteurs, la reprise en main de l'État et le fait que le salarié puisse financer directement sa formation qui sont des révolutions.
On va terminer quand même par une question difficile. Est-on capable aujourd'hui de chiffrer le nombre de salariés qui ne parvient pas à changer d'emploi ou à trouver un emploi faute de formation, Mathilde Moinet ? Est-ce qu'on peut quantifier ça un peu ?
Alors c'est très difficile parce que on met en avant l'importance du nombre de postes à pourvoir, et en particulier le patronat met en avant ce nombre de postes à pourvoir pour dire qu'il faut des formations justement spécifiques. On appelle ça adéquationnistes. Donc en gros, vous vous formez seulement si vous êtes sûr de pouvoir trouver un emploi à la clé. Or, ce qu'on mesure mal, c'est justement le nombre de chômeurs qui restent au chômage longtemps parce qu'ils n'ont pas de compétences générales de base, numériques ou autres. Et ça, c'est vrai que une formation plus générale, plus directe, permettrait probablement de réduire le taux de chômage et surtout de faire en sorte qu'il y ait moins de salariés au chômage.
Merci beaucoup Mathilde Lemoine. Je rappelle que vous aviez présidé le rapport pour Terra Nova sur la formation professionnelle, 7h25 sur France Culture.